Je vous invite à prendre une lecture, sans plus attendre, dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 21, et je vous invite à prendre à partir du verset 4. Il est écrit « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en étant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le randonna, et il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. C'est une pêche miraculeuse. Mais ce n'est pas la première pêche miraculeuse à laquelle les disciples de Jésus assistaient. Et ce matin, je pense qu'on peut donner peut-être plusieurs titres au message de ce matin, mais je partirai plus sur la guérison de nos personnalités. Et je vais vous inviter à prendre une autre lecture de la première pêche, cette première pêche miraculeuse dans l'évangile de Luc cette fois-ci, au chapitre 5. On prendra à partir du verset 4. Il est écrit « Lorsqu'il eut cessé de parler, il s'agit de Jésus, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent. Ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais tu seras pêcheurs d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Ces deux pêches miraculeuses sont espacées de près de 3 ans. La première, celle que nous venons de lire, c'est le début du ministère terrestre de Jésus-Christ. C'est l'appel des disciples. Alors, ce n'est pas la première fois que Jésus échangeait avec les disciples, avec ses pêcheurs, mais c'est cette fois-ci que Pierre, Jean, Jacques ont tout laissé, ont tout abandonné pour suivre Jésus. Il y a eu une première compréhension de qui était Jésus. Ils entendaient la prédication. Il y avait la prédication de Jean-Baptiste qui préparait l'arrivée du Seigneur. Ces disciples-là avaient certainement entendu, certains étaient disciples de Jean-Baptiste. Et Jésus arrivait, le Messie. Mais Jésus arrivait, non pas comme il l'avait imaginé. Et c'est vrai que nous avons un avantage sur les contemporains de Jésus et même sur les apôtres. C'est que nous, on connaît la fin de l'histoire. Nous, on sait tout ce qui va se passer derrière. Et si on se met juste quelques instants dans leur peau, si je puis dire, ils arrivent et ils attendent un Messie. Ils attendent un Christ qui allait venir, annoncé par les prophètes, annoncé par la Torah qu'ils lisent. Ils viennent tous les dimanches à la synagogue, ils entendent ces lectures-là. Et puis, à force, ils se sont certainement imaginés, conditionnés, eh bien, de voir peut-être un chef de guerre, issu de la lignée de David. On connaît les exploits de David. Alors, ils attendaient qu'il soit au moins, eh bien, comme David, qu'il ait des exploits, pas forcément que ce soit quelqu'un de physiquement, eh bien, fort, puisque la parole disait qu'il n'aurait, pas d'éclat pour attirer nos regards, mais la simplicité, mais une personne qui allait faire sauter, eh bien, ce qui se passait. À l'époque, l'occupant romain était présent. Il y avait, cette oppression qui pouvait être là. Nous savons, dans les disciples de Jésus, Matthieu était un publicain, Lévi. Et le publicain, eh bien, c'était un traître, si nous pouvons dire, puisque il travaillait pour l'occupant romain. C'est lui qui collectait les impôts et quelque part, il taxait, il prélevait, et en plus, des fois, il prélevait quand même souvent un peu plus que ce qu'il devait, parce que c'est comme ça qu'il se faisait, eh bien, ça paye. C'est comme ça qu'il pourvoyait ses besoins. Donc, du coup, l'occupant romain était vraiment avait vraiment une place, et ils attendaient un libérateur. Mais un libérateur, peut-être avec une dimension politique, géopolitique de l'époque, ils attendaient quelqu'un qui allait venir peut-être et tout faire sauter. Et là, c'est le fils d'un charpentier. Alors vous imaginez la stupeur de certains, qui se disent, mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de bien de Galilée? Ouh. Le fils du charpentier est là. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Jésus n'est pas venu, eh bien, comme il l'attendait. Et ils avaient conditionné quelque chose, mais les disciples dont il est question dans nos lectures, et on s'attardera plus sur Pierre, et puis un peu sur Jean. Et ces disciples-là attendaient, il y avait quelque chose. Ils avaient assisté à la prédication de Jean qui avait préparé leur cœur. Ils avaient entendu Jésus, ils avaient vu, ils avaient assisté, le baptême de Jésus, la colombe qui descend, le Saint-Esprit vient sur lui, et Dieu qui dit, c'est mon fils bien-aimé. Wow. Interpellé, mais il y a encore quelque chose qui les retient peut-être, de rentrer pleinement dans ce que Jésus veut leur communiquer. Et cette première pêche miraculeuse, eh bien, vous le voyez, Pierre, c'est un patron de pêche. Alors, vous êtes un peu loin des côtes, mais voilà, les pêcheurs, ils ont des caractères. Vous en connaissez peut-être, vous êtes peut-être. Voilà, Pierre, c'est un leader. Il mène son entreprise et puis il est associé avec Jean et Jacques, avec les fils de Zébédée. Et ils sont là, ils ont l'habitude, ils maîtrisent. Et cette assurance-là, eh bien, va lui faire défaut tout au long, eh bien, de sa marche. En tout cas, dans les premiers temps, et ça sera un obstacle, eh bien, à la pleine compréhension de qui est Jésus et de ce qu'il veut faire dans sa vie. Mais même si c'est un obstacle, Jésus le savait, Dieu le savait, il a travaillé avec la personnalité de Pierre, comme il a travaillé avec la personnalité de Jean. Ils sont tous les deux dans cette barque à ce moment-là, et la pêche miraculeuse, plus que la pêche en elle-même, c'est la démonstration de la divinité de Christ. C'est un miracle. Vous imaginez, ils sont pêcheurs, ils connaissent bien le lieu, ils ont leur filet, ils n'ont rien pêché de la nuit. Et puis, Jésus leur dit, mais vous avez quelque chose? Non, jette ton filet. On a travaillé toute la nuit. On ne te connaît pas, tu es plus charpentier que pêcheur. Nous, on connaît. Mais, quand même, interpellé, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Même si ce que je sais, ce que je connais, ce que je maîtrise, eh bien, me ferait penser que j'ai fait tout ce qu'il fallait, tu me l'as dit, alors je veux croire que sur ta parole, je jette mon filet. Et là, le miracle arrive. Plus que le miracle, la démonstration de la toute-puissance, la puissance de Jésus-Christ, eh bien, sur la création. Amen. Et c'est un problème. Et peut-être que c'est même certainement la meilleure pêche qu'ils aient jamais fait de toute leur carrière, vous imaginez? Et ils s'y attendaient pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont pas pris toute la pêche, ils ont pas dit, oui, on est béni, ils ont pas commencé à vendre les poissons pour s'enrichir, pour acheter de nouvelles barques, pour tout ça. Le jour où ils ont du succès dans leur entreprise, Jésus leur demande de tout quitter. Ah. Alors non seulement il les amène à faire quelque chose qu'ils attendaient pas, de jeter le filet, sur la parole de Jésus, il y a le miracle, et en plus après, il les invite à tout quitter. Mais en fait, ils ont été saisis. Ils sont pas arrêtés à ce qu'ils ont vu à ce moment-là, ils sont arrêtés à la démonstration de la puissance de Jésus-Christ sur la création. Et là, c'était pour eux une expérience, je pense, qui a marqué leur vie, qui a marqué un tournant dans leur relation avec Jésus et puis dans leur considération qu'il était bien le Christ. Même s'ils n'avaient pas encore tout perçu, tout compris, et on le voit, eh bien, le verset 9 nous dit, l'épouvante avait saisi Pierre. Et il a dit à Jésus, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et là, à ce moment-là, il rentre dans une autre dimension de la compréhension de la sainteté, de la toute-puissance de Jésus. Et vous savez, quand on s'avance, quand Jésus nous tombe dessus quelque part, le Saint-Esprit, eh bien, nous bouscule, on peut avoir peur. Et j'aimerais presque même vous dire, c'est un peu normal d'avoir peur. Parce qu'on devient conscient, eh bien, de notre nature, de ce qui nous sépare de Dieu et de la sainteté de Dieu. Mais ce qui est formidable, c'est que, eh bien, il nous laisse pas dans cette dimension-là. Il nous amène à dire oui, mais je sais comme tu es, mais viens avec moi. Viens, je vais te faire pêcheur d'homme. Il leur a fait une promesse. Il lui a dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'homme. Et je crois que cette expérience qu'ils ont faite à ce moment-là, eh bien, il y a eu un saut à ce moment-là sur leur vie, par l'expérience qu'ils ont faite de la manifestation de la divinité de Jésus-Christ. Et le temps aura passé. Alors vous connaissez peut-être un petit peu les expériences de Pierre. Pierre, c'est cet homme de caractère, nous le disions tout à l'heure. C'est cet homme fougueux, c'est cet homme rempli de zèle, et c'est celui qui va toujours vouloir faire un peu plus. Il veut plaire à Jésus. Il a compris, mais Pierre, c'est un peu toujours plus. Ah, il a assisté à des miracles. Il y a la pêche miraculeuse qui a scellé quelque chose. Mais il faisait partie de ces trois témoins privilégiés, avec Jacques et Jean, qui étaient avec lui. Ces trois témoins que Jésus emmenait dans des circonstances où d'autres n'ont pas pu aller. La résurrection de la fille de Jaïrus. Ils ont vu la puissance de Jésus-Christ sur la mort. Amen. Ils ont vu, il y a eu la tempête apaisée. À nouveau, ils étaient tous là. Il y a eu également la transfiguration. Alors là, ils étaient tous les trois avec Jésus dans un temps qui préfigurait, eh bien, la gloire à venir. Et là, on a Jésus, on a Pierre. La seule chose qu'il trouve à faire, c'est de vouloir faire détente. La seule chose qu'il trouve à faire, c'est de vouloir immortaliser le moment. Vous imaginez aujourd'hui, on va faire un selfie avec... on sort tout le matériel. Voilà, il faut qu'on immortalise ce moment. Mais c'est pas ça que Jésus veut. Parce que le moment, il est immortalisé pour l'éternité. Et lui, il voulait, c'était tellement bon, il attendait ça. Il avait vécu plein de choses, il avait soif de plus encore. Et Pierre, il voulait toujours plaire à Jésus. Moi, j'imagine que derrière Jésus, ben, il était en tête. Il a ce caractère un peu de leader. Et puis la parole nous montre, ben, c'est souvent Pierre qui est cité en premier. C'est donc naturellement, voilà. Mais c'est pas grave puisque c'était le plan de Dieu aussi, puisque c'est lui, eh bien, qui prêchera le jour, eh bien, de la Pentecôte. Il s'est servi de lui. Mais Pierre était peut-être derrière, tellement collé à vouloir. En fin de compte, peut-être qu'il se trompait d'objectif quelque part. Pierre était, je pense, à mon sens, animé par une reconnaissance, hein, mais la direction était, je veux faire plus parce que je mérite pas, j'ai conscience que je suis pécheur, j'ai conscience que je suis pas bon, que je suis pas qualifié, mais je suis quand même, j'ai quand même des compétences, quoi. Donc je vais lui montrer que, bon, même si il est là, à tel point que, avant l'arrestation, quand Jésus lui dit bien qu'il doit qu'il leur reste, il lui reste quelques temps, je suis pour avec vous encore pour quelques temps, mais qu'il doit se livrer. Il lui dit non. Alors je paraphrase, mais tant que je serai là, il t'arrivera rien, Jésus. Oh, Pierre, ça fait 3 ans, t'as pas compris encore. T'as pas tout compris. Il leur avait annoncé, mais Pierre, il y a des choses qu'il voulait pas voir. Et puis, il voulait tellement, il aimait tellement la présence de Jésus que je pense aussi qu'il y avait un petit côté un peu égoïste dans le sens où, mais j'ai pas envie que ça s'arrête. Et je vais tout faire pour que ça continue. Rappelez-vous des cabanes pour au moment de la transfiguration. Il voulait pas que le moment s'arrête. Mais c'était pas le plan de Dieu. Et puis le moment, mais il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté, mais la présence physique de Jésus s'est arrêtée, oui. Parce qu'il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure pour nos péchés. Il fallait qu'il puisse, eh bien, il y avait une rançon à payer. Et la seule rançon qui est valable, eh bien, pour le Père, pour réconcilier l'homme avec Dieu, c'est le sang de Christ. Et il fallait qu'il accomplisse tout cela. Et vous rendez compte? Là, du coup, quand on réfléchit, Pierre voulait empêcher ça. Mais non, Pierre. Mais non. Et Pierre, il y avait son caractère qui était là. Il était dans la présence de Jésus, il voyait, il participait. Alors oui, il grandissait dans sa foi, mais son caractère était là. Sa personnalité était encore bien présente, à tel point que mais Jésus lui dira, mais Pierre, tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Non, c'est pas possible. Comme je dis, nous, on a un avantage, oui. Nous, on savait que ça allait se faire comme ça. Jésus le savait. Et là, Pierre se retrouve confronté à son impossibilité, à son incapacité. Confronté à sa faiblesse. Malgré tout ce qu'il a vécu, il est confronté. Eh bien, ce que Jésus avait dit s'est accompli. Vous imaginez que lorsqu'il voit Jésus partir, il se cache à l'entrée du lieu où Jésus a été emmené chez Caïphe, voilà, c'est ça, chez Caïphe, il est là, mais Jean, lui, est rentré, mais Pierre est, mais on te reconnaît, toi, non, ah non, c'est pas moi, Jean, lui, est rentré, et là où je veux en venir, c'est que notre première lecture, Jean, étaient dans la même barque que Pierre. Ils ont vécu tous les deux la même chose. Ils avaient tous les deux leur personnalité. Et il y a un temps de guérison de la personnalité. Il fallait que Pierre, dans son caractère, eh bien, soit pétri quelque part, soit bousculé dans sa compréhension, qu'il soit amené jusque, eh bien, à son retranchement. Là, Pierre se retrouve face à son reniement, mais pendant plusieurs jours, parce qu'il n'aura pas revu Jésus. Il le verra peut-être de loin, Jean, lui, au pied de la croix. Mais Pierre doit vivre avec tout ça. Et Jésus va revenir. Amen, il est mort, mais il est ressuscité. Dieu a agréé son sacrifice à la croix et l'a ressuscité des morts. Et au moment de la résurrection, on a lu ce passage dans Jean 21, eh bien, à ce moment-là, Pierre doit certainement être un peu accablé par tout ce qu'il y a. Oui, il a vu Jésus, déjà 2 fois, mais il n'a pas réglé le contentieux. Là. Parce que dans son cœur, il y a un contentieux. Parce qu'il sait qu'il ne mérite pas. Et ce qui s'est passé, cette deuxième pêche miraculeuse, il avait déjà vécu la même chose, mais Pierre n'a pas compris que c'était Jésus qui était là. Pourtant, il avait vécu, eh bien, une manifestation divine il n'a pas fait autre chose qui pourrait être semblable. Non, il a vécu 2 pêches miraculeuses. La première, il est tombé devant Jésus en disant, mais, oh, tu es saint, tu es Dieu, tu es fils de Dieu. Et là, il est tellement certainement occupé par ses pensées, par tout ce qu'il peut y avoir. Peut-être par sa honte, par sa culpabilité devant Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il a fait, vous imaginez, c'est compliqué de vivre avec ça. Et bien, il ne le voit même pas. C'est Jean qui lui dit, c'est Jésus, moi je sais. C'est lui. Puis peut-être quelque part, mais il n'y a que lui qui peut faire ça. Parce qu'il y a quelques années, il l'a déjà fait. Il y a ce chant qui nous dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux et tu verras en adorant combien Dieu est grand. Compter les bienfaits, c'est se rappeler de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et comme on le lisait ce matin, c'est pas regarder en arrière avec une nostalgie, avec un désir, avec pas vouloir avancer, c'est regarder en arrière pour se rappeler de ce que Dieu a fait, pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Et là, à ce moment-là, eh bien, le premier saut qui avait été donné de cette première pêche miraculeuse, eh bien, il refait, il leur donne les mêmes codes quelque part. Et il n'y a que Jean qui percute. Et Pierre, ah, tout de suite, bah Pierre, toujours plus. Moi, je plonge. Tu rentres, tu rames, mais c'est toi qui ramènes la barque, mais moi, j'y vais. Hein. C'est Jean. Ah, c'est Jean qui ramène. Et c'est Pierre qui plonge. Voilà. Pierre, il veut encore être le premier. Amen. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de formidable. C'est que ils arrivent sur la plage. Jésus les attend. Il y avait déjà tout. Il avait déjà tout préparé. Alors, il leur dit, oui, ramenez les poissons. Mais quand on lit bien, dans Jean 21, il est dit que Jésus les attendait avec le feu allumé, les poissons, les pains. Il nous appelle à lui, mais il a déjà tout préparé. Il n'a pas besoin qu'on vienne avec notre pêche. Il n'a pas besoin qu'on vienne à lui avec eh bien, nos capacités, avec tout ça. Il a besoin qu'on vienne à lui, même s'il leur dit « Oui, viens, mais moi j'ai déjà tout préparé. » Qu'on puisse s'abandonner. Et ce qu'il avait vécu, ce qu'ils avaient vécu ensemble à cette première pêche miraculeuse, eh bien, ils avaient tout abandonné, ils l'avaient suivi. Et là, je pense que ça résonne. Ça résonne dans son cœur, ce saut qui avait été mis à ce moment-là. Et puis, il y a eu le moment de régler, entre guillemets, le contentieux, eh bien, de Pierre avec Jésus. Et peut-être qu'il savait pas comment. Parce que Pierre se disait, mais, vous imaginez le flashback des 3 années, toutes les fois, où j'ai parlé alors que j'aurais dû rien dire. Toutes les fois où, vous imaginez ce qui se passe. Mais c'est des temps qui sont nécessaires pour se repositionner. Et là, il a l'opportunité. Et puis, à la fin du chapitre 21, il y a ce temps où Jésus lui dit, eh bien, on peut le lire, Jean 21, la deuxième partie du chapitre. Au verset 15, après qu'ils eurent mangé ce que Jésus leur avait préparé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Et il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Et Pierre était attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra pour te mener où tu ne voudras pas. » Ce temps de la réconciliation quelque part, en tout cas dans le cœur de Pierre, parce que Jésus, lui, il connaissait Pierre. Il savait ce par quoi Pierre devait passer. Jean, lui, avait un autre caractère. Il connaissait le caractère de Jean. Et il a besoin de chacun de nos caractères. Aussi différents sommes-nous, mais il a besoin de chacun de nos caractères, parce qu'il veut nous utiliser pas comme le voisin, mais il veut nous utiliser, eh bien, comme il a prévu de le faire. Amen. Ne cherchons pas à être comme le voisin. Ne cherchons pas à vouloir avoir, se dire, ah, mais il a tel don, tel talent. J'aimerais, oui, on peut aspirer à ce que Dieu se serve de nous. Mais Pierre, à ce moment-là, je pense qu'il a été saisi parce que la seule chose que Jésus lui a dit, mais est-ce que tu m'aimes? Quelque part, est-ce que tu as bien compris ce que c'est d'aimer? Est-ce que tu m'aimes ou ce que tu aimes être avec moi quelque part? Est-ce que tu aimes me servir? Est-ce que tu aimes profiter de toutes ces bénédictions que tu as? Parce que pendant 3 ans, disciples et apôtres de Jésus, logés, nourris, blanchis, les miracles, la multiplication des pains, il n'y avait pas à se prendre la tête là. Jésus était là. Et ça, moi je peux comprendre que ce soit compliqué de se dire, bon ben c'est terminé, mais comment ça va se passer maintenant? Il y a une déstabilisation, mais Jésus lui fait pas de reproche. Il lui dit pas, mais bon Pierre, alors tu te rappelles ce jour-là? Et là, tu te rappelles ce jour-là? Tu te rappelles, toi, tout ce qui t'a mené au reniement? Je t'avais prévenu, t'as pas voulu m'écouter. Mais jamais il lui a dit ça, Jésus. Parce qu'il avait besoin de passer par là, Pierre, pour rentrer pleinement, eh bien, dans le plan de Dieu. Et quand je parlais de guérison de nos personnalités, il fallait que Pierre soit guéri de sa personnalité, qui prenait trop de place. Mais son caractère, son côté, son leadership est important et a été important pour l'établissement de l'Église primitive. C'est important qu'il soit un leader. Maintenant, c'était sa motivation. La guérison de sa personnalité devait passer par, ce que je fais pour Jésus, pour avoir quelque chose, pour quelque part mériter ma place, ou je le fais parce que je sais que j'ai ma place, parce que je sais que Jésus m'a aimé. Et là, et je crois que, il y a un deuxième sceau qui est mis sur la vie de Pierre à ce moment-là. Quand il réalise l'étendue de l'amour de Jésus-Christ, qui lui fait pas de reproche. Alors oui, même s'il est dit qu'il a été attristé, mais Jésus lui dit, mais positionne-toi, c'est est-ce que tu m'aimes? Et c'est ça le principal. Et c'est tu m'aimes et moi je t'aime. Je te démontre, je te dis pas que je t'aime. Je te montre que je t'aime. L'amour, ça se démontre. Ça se dit, oui, il faut le dire. Mais si on le dit et que ça se démontre pas, ça sert pas à grand-chose. L'amour, c'est pratique. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a dit. Ah ben, on est bien avancé. Ah, il a agi. Il a tant aimé le monde, eh bien qu'il a manifesté une preuve de cet amour. Et pas une preuve qui lui a rien coûté. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette parole qui, un jour, a saisi nos cœurs et qui, je prie pour que, si c'est pas encore le cas, saisisse encore des cœurs. C'est le message de l'évangile, c'est cette bonne nouvelle que, Dieu n'a pas fait que de dire qu'il nous aimait. Il l'a manifesté. Et il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé un prophète, il n'a pas envoyé quelqu'un pour mourir à notre place. Il est descendu sur terre. Il lui a dit, mais je t'aime tellement que, je viens. J'envoie pas quelqu'un. Je viens. Il est descendu. Jésus-Christ a accepté de mourir à notre place, de payer cette rançon qu'aucun d'entre nous n'était en capacité de faire. Et ça, Pierre ne pouvait pas le comprendre avant que Jésus soit crucifié, qu'il ressuscite et qu'il soit dans la gloire. Là, il y a la compréhension. Et puis après, ce qui est formidable, au début du livre des Actes, c'est un autre Pierre qu'on voit. C'est pas un Pierre qui veut faire pour plaire à Jésus, pour mériter une place, parce qu'il a compris, parce qu'il y a une promesse, je te ferai pécheur d'homme. Ok, allez, ça commence quand? Ça commence quand tu vas te calmer. Ça commence quand tu vas suivre mon plan, quand tu vas être soumis quelque part à mon autorité. On partageait hier avec les ados d'être Jésus, c'est un sauveur, mais c'est un seigneur. Il veut régner sur nos vies. Parce que s'il est que sauveur, on risque d'être amené à faire ce qui nous paraît bon, ce qu'on juge bon. Alors oui, il nous faut être sensible au Saint-Esprit, mais il y a aussi ce cadre-là. Il y a le cadre de l'attachement à la parole de Dieu, de l'attachement à l'Église. Il y a le cadre que Dieu a laissé de l'autre côté pour maîtriser nos personnalités, parce que même si le sacrifice de Jésus nous a délivrés de nos péchés, de notre ancienne nature, oui, elle nous a délivrés de son autorité sur nos vies, mais il y a encore un combat du quotidien. Le vieil homme, des fois, il a des sursauts. Il faut le maîtriser. Et il n'y a que Jésus qui peut le maîtriser. Il n'y a que la relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que Pierre, en fait, a compris, je pense, à ce moment-là. Et c'est un nouveau Pierre qui peut, à ce moment-là, être utile. Être utile parce que il rentre, non pas dans une dimension de « je veux faire pour montrer à Jésus, regarde, mais je vais faire parce que je sais que tu m'aimes, parce que moi je suis incapable de faire tout seul, parce que j'ai besoin de toi. Et on change de dimension, dans notre personnalité, dans nos motivations, mais c'est un combat de chaque jour. C'est pas quelque chose qui arrive et qui est, si on veille pas, notre nature risque de vouloir reprendre un petit peu le dessus. Alors il nous faut nous attacher à la parole de Dieu. Il nous faut nous attacher à la vie de l'Esprit. Et puis il ne faut pas avoir peur, parfois, eh bien, de vivre quelques afflictions, quelques souffrances, quelques difficultés. J'aime cette parabole, cette image que Jésus donne du vrai cep et des sarments. Et pour que la vigne pousse, il y a beaucoup d'arbres fruitiers ici. Mais pour qu'ils poussent, on les laisse pas pousser n'importe quand. Il faut les tailler à la bonne saison. Il y a toutes ces images qui sont là. Ben, Pierre, il a eu besoin d'être taillé plusieurs fois. Voilà, parce qu'il poussait un peu... Jean poussait un peu plus droit. Si on peut prendre cette image. Mais la réalité est que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Moi, je crois que la parole de Dieu est vraie. Vous le croyez aussi? Et il est écrit, au reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si Pierre, il comprenait pas avant que, mais ça allait concourir, c'était en train de concourir à son bien, parce que Pierre était animé d'un amour pour Jésus-Christ qui était réel. Maintenant, c'était sa façon de manifester son amour, c'était sa motivation, et il devait passer de, eh bien, je fais pour avoir une place, à je fais parce que je sais que j'ai une place, je sais que Jésus m'aime. Et on rentre dans une autre dimension, cette dimension de reconnaissance et puis d'abandon. La vie de l'esprit, l'image toujours du cep et du sarment. Pour que le sarment pousse, mais il y a besoin que la sève puisse, eh bien, rentrer, inonder, remplir ce sarment-là. C'est l'image du Saint-Esprit en nous. La relation avec Jésus, l'attachement, le Saint-Esprit, eh bien, fait croître. Le Saint-Esprit en nous, eh bien, nous pousse dans nos retranchements et puis nous permet, eh bien, de croître correctement selon la parole de Dieu. Une dépendance. Une vie de dépendance. Et c'est là qu'on réalise que Dieu regarde à notre potentiel. Mais c'est un potentiel dont nous n'avons rarement conscience. On en a conscience quand on rentre dedans. Pierre, je pense, en a pris conscience du potentiel et de ce que Jésus lui avait dit, tu seras pêcheur d'hommes le jour de la Pentecôte. 3000 conversions. Waouh! Ah, Michael, faut qu'on prie plus, hein. Oh là 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 là, mais c'est, moi j'imagine, vous imaginez. Ah, c'est pas les poissons, c'est tu seras pêcheur d'hommes. Il attendait, Pierre, certainement. Et là, la prédication, le jour du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la révélation faite. 3000 personnes qui se donnent à Jésus, qui réalisent l'amour de Dieu. Wow. Mais le plan, la promesse que Jésus lui avait faite, il y a eu un temps. Il y a eu un temps de formation. Vous savez, Jésus, je pense que c'est celui qui, et on le voit, a inventé la formation initiale. Là, il y a les 3 ans. Et puis après, il y a la formation continue. Et puis alors, il y a un terme qui était intéressant, la formation tout au long de la vie. La formation tout au long de la marche. Et Pierre pensait que ses capacités étaient, ok, je suis l'homme de la situation. Et non, il fallait qu'il soit malaxé un peu. Et il y a cette image dans la parole de Dieu de ce Dieu qui est le potier, et nous qui sommes cette argile, il nous façonne. Alors que nous puissions nous laisser façonner à ce que Dieu veut faire dans nos vies. La parole nous dit que l'homme forme des projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Pierre, il avait plein de projets. Il s'est fatigué, je pense, pendant ces 3 ans-là. Il aurait pu gagner du temps, mais c'était sa personnalité et Dieu le connaissait. Jésus le connaissait, il l'a amené à rentrer dans son plan. Et c'est ça qui est formidable. il fait avec chacun d'entre nous, eh bien, en fonction de nos personnalités, en fonction de qui nous sommes. Mais il attend qu'une seule chose, par contre, qui est commune à chacun d'entre nous, peu importe nos personnalités, c'est que nous les abandonnions, nos personnalités, pour le laisser rentrer pleinement dans nos vies. Nous puissions vraiment rentrer dans une relation de dépendance. Et quand Dieu regarde nos vies, quand il regarde au cœur, quand il regarde au potentiel, c'est pas le potentiel humain, c'est ce potentiel divin. Il y a un potentiel de brisement quelque part. Mais il y a un potentiel d'obéissance. Il y a un potentiel également de repentance. Parce que Pierre, il s'est repenti de tout ça. Il a réalisé qu'il s'était trompé. Il y a un potentiel de dépendance et un potentiel d'abandon total à Dieu. Alors c'est un cheminement que le Seigneur nous encourage ce matin à se dire, mais quand on regarde Pierre, son zèle excessif, comment, eh bien, Dieu l'a transformé pour l'amener à être ce pêcheur d'homme, à être celui sur qui l'Église primitive a été fondée. Moi, ça m'encourage, je sais pas vous, hein. Il n'y a pas que des gens qui ont tout compris presque tout de suite, parce que Jean, il commence son évangile, il fait, au commencement, on savait, lui, il a compris, c'était clair, ça a été limpide pour lui. Il n'y a pas que des gens. Moi, j'étais pas un Jean, hein. Je suis pas trop un Jean non plus. Mais, vous voyez, mais il y a des personnalités qui comprennent tout. Et puis, il y en a d'autres qui cheminent, il y a des résistances. Mais Dieu est celui qui peut, eh bien, abattre ces résistances-là pour qu'il puisse se révéler complètement dans nos vies, qui puisse nous guérir quelque part de nos personnalités. Et avec lui et l'assistance du Saint-Esprit, eh bien, nous pourrons aller de progrès en progrès et de victoire en victoire. Amen. Alléluia. On va pouvoir prier quelques instants. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence dans nos vies, mon Dieu. Merci parce que tu vois en nous ce que nous sommes parfois incapables de voir. Tu vois au-delà de nos conceptions, au-delà de la réalité humaine par laquelle nous passons. Tu vois ce potentiel divin dans nos vies, Seigneur. Et c'est ton amour qui nous transforme. C'est l'amour de Christ manifesté à la croix qui nous bouscule. Et je te prie, Seigneur, nous te prions de pouvoir rentrer dans une dimension nouvelle avec toi. Venir parce que nous sommes conscients de ton amour dans nos vies. Parce que nous sommes conscients que nous ne méritons rien, mais qu'en toi nous avons tout trouvé. Nous ne voulons pas faire pour te plaire et avoir ta faveur, parce que nous savons que nous l'avons déjà, ta faveur. Nous voulons faire simplement, animé par ce sentiment de reconnaissance et d'amour. Aide-nous, Seigneur, à rentrer encore plus profondément, dans ces eaux vives, Seigneur, que tu mets devant nous. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu fais avec chacun de nous, selon nos faiblesses, selon nos capacités, selon nos manquements, selon nos réussites. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Mais ton amour est inconditionnel. Et ça, nous voulons nous en saisir. Nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Et au moment de la difficulté, au moment de la détresse, nous voulons nous rappeler que tu es le Dieu vivant et vrai, que tu es le Dieu créateur de toutes choses, que tu es celui qui appelle à l'existence qui n'existe pas. Tu es celui qui est à l'autorité sur la création. Tu as autorité sur nos vies. Tu as autorité sur nos circonstances. Tu es le Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu. Et qu'en toi, Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Nous avons tout trouvé. Alors, Seigneur, merci de te révéler encore plus dans nos cœurs. Plus de toi, Seigneur. C'est notre prière. Nous voulons apprendre à dépendre de toi, Seigneur, afin que ton plan et ta volonté s'accomplissent dans chacune de nos vies, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.